Le Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Idowani.
Wa Makara.
Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chenni Beri.
Halud Mouni.
Chenni Beri.
Sigi Kafoba. Le Grand Dialogue.
Orientation des admis au DEF, pourquoi une si longue attente chaque année sur le thème qui sera abordé au cours de ce grand dialogue. Les orientations du diplôme d'études fondamentales DEF sont connues depuis le lundi 11 novembre 2024. Elles interviennent un mois après la date initiale de la rentrée scolaire repoussée au 4 novembre suite à des inondations survenues dans le pays. Cette année, tout comme les années précédentes, des inquiétudes demeurent chez les parents et les élèves. Quelle explication au retard dans les orientations, comment y mettre fin? On en parle dans ce grand dialogue avec nos invités, Abel Touré, secrétaire administratif de la Fédération nationale des associations des parents d'élèves et étudiants du Mali, Dr Morike Dambélé, pédagogue, enseignant, chercheur à l'université de Bamako. Nous avons sollicité la cellule de planification et de statistiques du secteur de l'éducation chargée des orientations. Ses responsables ont plutôt opté pour une interview qu'un débat. À la présentation, je suis Mrana Kilo Maïga. Bienvenue à toutes et à tous.
Le Grand Dialogue.
Cette année, 133 606 candidats admis à l'examen du DEF sur plus de 134 000 ont été orientés entre les établissements privés et publics, nous dit Souleymane Aliou, directeur général de la cellule de planification et des statistiques du secteur de l'éducation.
Sur l'ensemble du territoire, il y a eu 133 606 élèves orientés sur un peu plus de 34 000 et 134 000 admis.
Et ceux qui ne sont pas orientés, pourquoi?
Pratiquement, nous, on dit qu'il n'y a pas de non-orientés. Ceux qui n'ont pas, les 1000 et quelques qui peut-être n'ont pas été orientés, ce sont des candidats libres qui ont postulé pour faire le DEF pour des raisons qu'ils connaissent. Sinon, ce n'est pas des élèves réguliers. Donc, on les appelle des candidats libres. Et les candidats libres ne sont pas pris en charge dans les orientations. On appelle un candidat, il est libre. Nous le considérons libre. Même s'il s'inscrit comme régulier, à partir du moment où il a plus de 20 ans, on l'appelle candidat libre. Il ne s'est pas orienté.
Depuis quelques années, on constate de retard dans la proclamation des orientations. Qu'est-ce qui explique cela?
Bon, le retard lors des travaux des orientations, ça s'explique par plusieurs facteurs, et ce que je disais aux uns et aux autres, c'est vrai que les orientations, c'est un processus. Sa préparation nécessite beaucoup d'attention, beaucoup de suivi et beaucoup de rigueur. Parce que vous aurez constaté vous-même après les orientations, il y a toujours des réclamations. Des réclamations peuvent porter tantôt sur l'année de naissance des élèves, la filiation elle-même, et puis des réclamations portant des fois sur leur orientation. Maintenant, la particularité de cette année, c'est que les orientations, on a été obligé d'attendre que nous ayons les résultats des travaux d'évaluation des établissements qui avaient été organisés pour pouvoir faire les orientations. Et donc, ce retard s'explique aussi par le fait que 2 mois après la proclamation des résultats, les candidats ayant échoué ou ayant été admis ont le droit de faire des réclamations sur les résultats du DEF. Pendant ces 2 mois, donc on s'abstient de dire qu'on va faire les travaux d'orientation.
Abdel Touré, vous êtes parent d'élève. Quel est d'abord votre ressenti par rapport au retard constaté dans les orientations?
Bien, merci Maïga. Merci à mon co-débatteur, à nos co-débatteurs, disons. Et merci à tous nos auditeurs et téléspectateurs. Bon, nous, parents d'élèves, lorsque les orientations traînent de cette façon-là, nous sommes profondément inquiets. D'abord, nous ne savons pas sur quel pied danser. Nous sommes dans l'attente. Les enfants, c'est pire, parce que vraiment, ils sont sur des braises en ce moment-là. C'est une situation vraiment désagréable. Et je saisis cette occasion pour dire qu'il y a 2 ans déjà, nous avions soumis un document aux 2 ministères en charge de l'éducation pour décrier un certain nombre de pratiques, en tout cas que nous avons estimées qui étaient cause de dysfonctionnement ou de problèmes dans le système éducatif. Parmi ces griefs que nous avons souligné la lenteur dans la parution même des résultats du DEF. Alors moi, je suis surpris, et nous l'avons dit dans notre document, les pays voisins, depuis le jour même que l'examen se tient, disent nos résultats sont attendus pour telle date. Et ils s'efforcent de respecter ces dates-là. Alors moi, nous nous sommes dit, mais pourquoi le Mali ne peut pas faire autant? C'est vous qui planifiez tout, c'est vous qui choisissez les correcteurs, c'est vous qui choisissez les surveillants. Mais je ne comprends pas. Ou bien il y a un manque de personnel enseignant, ou alors je ne sais pas comment le travail se fait.
Pour la cellule de planification...
Je parle d'abord des griefs que nous avions dit. Mm-hmm. Ça, c'était d'abord pour la parution même des résultats. Mm-hmm. Ensuite aussi pour la lenteur dans la proclamation des orientations. Parce que les examens finis, les résultats ayant été connus, je ne sais pas pourquoi on va attendre que d'autres lycées, tout à l'heure il a parlé de, je ne sais pas, un certain contrôle au niveau des lycées, ou je ne sais pas trop, le mot m'a échappé, mais je ne vois pas en quoi cela pourrait jouer sur les orientations des admis. Je ne vois pas. Si on procède aux orientations, si les lycées, après leur vérification et tout ça, si les lycées ne sont pas en règle, ça, c'est une autre paire de manches. Mais les orientations ne doivent pas être soumises à ça. Ce sont des élèves qui ont été déclarés admis à un examen, mais on les oriente. On les oriente, quitte après à faire des ajouts dans les orientations.
Je disais tout à l'heure que pour la cellule de planification des statistiques, ce retard s'explique par l'attention accordée aux préparations des établissements qui doivent recevoir ces élèves, à la rigueur également dans le processus, mais aussi le droit de réclamation des candidats échoués ou candidats admis au DF. Ces arguments sont-ils convaincants pour vous?
Bon, moi, vraiment, je prends ça avec beaucoup de réserve. Parce que les lycées, là, sont connus déjà. Le ministère est à même d'organiser toutes les enquêtes qu'il faut pour connaître la capacité d'accueil de ces établissements-là. Ce n'est pas des établissements qui ont été créés hier ou il y a un mois. C'est des établissements qui existent depuis des années. On doit connaître leur capacité d'accueil. Donc les orientations ne peuvent pas être retardées parce qu'il faut voir combien d'élèves ces lycées peuvent accueillir. Ça doit être connu avant ça. C'est un travail qui doit se faire en amont.
Docteur Moriquet, je vous voyais sourire un peu. Comment vous comprenez ce retard répétitif dans les orientations?
Merci beaucoup. Je remercie également M. Touré et je remercie aussi le chef de la cellule de planification statistique du ministère pour son intervention préliminaire. Je crois que la question est un peu mal posée. Il ne s'agit pas de dire pourquoi il y a retard. Parce que si vous mettez dans le cadre de chercher les facteurs qui impactent le retard, vous allez remonter loin dans l'histoire de l'éducation. Je n'ai pas vu une année où on a publié...
Alors, quelle est la bonne question qu'il faut poser?
C'est-à-dire, la question, c'est... Je crois que M. Touré l'a abordé un peu. C'est l'organisation de nos examens. C'est ce qu'il faut repenser. Tant qu'on ne va pas repenser notre système d'organisation des examens, on aura toujours des retards. Ça, c'est le premier facteur. Le deuxième facteur, c'est que l'État même veut ça. Il veut que l'école reprenne et faire l'orientation pour maintenir les élèves là où ils sont. Parce que si tu dois quitter Bafoulabé, par exemple, pour venir à Bamako, et que tu as été mis à Bafoulabé, l'école a déjà commencé. Il y a une forte tendance que les élèves restent sur place.
Donc vous voulez dire que ce retard-là est fait exprès?
Oui. Mais imaginez, le premier, on devrait rentrer en octobre. Si on rentrait, est-ce qu'on allait attendre novembre pour publier les résultats? Non, la rentrée officielle, c'est le mois d'octobre. Le ministère a beaucoup insisté sur ça. Mais par la force des choses, on a reporté.
À cause des inondations.
Des inondations. Maintenant, mais ils n'ont pas publié. Ils ont attendu que l'école reprenne pour publier les résultats. Donc, je crois que la stratégie du ministère, c'est de diminuer les mouvements après la proclamation des résultats. Ça aussi, c'est connu depuis tout temps. Moi, je n'ai jamais vu une orientation qui est venue à point nommé. C'est-à-dire là où on l'attend, c'est-à-dire l'orientation en septembre, pour que les élèves se préparent et aillent rejoindre les écoles où ils ont été orientés. Ce n'est pas ça. Donc la question, en fait, elle pose aussi le problème de la gestion du privé. Je crois que le directeur disait que bon, il y avait une évaluation des établissements privés pour savoir quelle est la capacité d'accueil des élèves. Bon, je vois bien que quand vous regardez les statistiques, plus de 68% sont allés dans le privé. Et qui est-ce qui reste à l'État ?
29 000.
Mais c'est extrêmement grave. Ça veut dire quoi ? C'est l'État est le premier client du privé. Qu'est-ce que ça donne ?
D'accord. Malgré ces dispositions annoncées par la cellule de planification, qui sont les principales raisons du retard constaté dans les orientations, certains lycées ayant bénéficié des candidats admis au ODF restent introuvables. Comment vous comprenez cela ? Qu'on envoie des élèves dans des lycées et que le lycée reste introuvable ?
Oui, bien, parce que notre collègue il disait tout de suite qu'ils ont fait une évaluation. Et pour savoir qui peut recevoir combien d'élèves. Bon, alors, et quel est le résultat de cette évaluation si les établissements n'existent même pas ? Je pense qu'il y a un travail en profondeur pour refonder, n'est-ce pas, l'éducation au Mali. Et les situations autour de l'orientation n'est qu'un petit doigt parmi un ensemble de problèmes qui entourent notre système. Je pense que c'est ça la vraie question. Quel type d'école nous voulons pour le Mali ? Et si nous rentrons dans ça, là, c'est vraiment négligeable ce que nous sommes en train de débattre, c'est-à-dire que l'orientation n'est qu'un effet. Maintenant, qu'est-ce qu'on veut pour l'éducation au Mali aujourd'hui ? Mon collègue Touré parlait tout de suite de reformer le système.
On va parler de la réforme du système tout à l'heure. Ces orientations prennent en compte le zone des établissements existants dans la base de données du ministère plus ou moins proche des candidats demandeurs. C'est ce qu'a en tout cas affirmé Souleymane Aliou, directeur général de la cellule de planification et de statistiques du secteur de l'éducation.
C'est-à-dire qu'on prend le second cycle d'une zone et puis on essaye de mettre les enfants dans les établissements d'enseignement secondaire qui se trouvent dans la zone. Sauf si des élèves exceptionnellement peuvent demander à quitter la zone pour aller dans une autre zone. Au moment de remplissage de la fiche d'orientation. Ça peut arriver. Mais rarement, on a vu des enfants chercher leur établissement d'accueil. Très généralement, oui.
Quand on essaye de faire une comparaison par rapport aux années précédentes, on retrouve qu'aujourd'hui, il y a vraiment des difficultés. Qu'est-ce qui explique cela ? Est-ce que c'est un manque d'anticipation au niveau des autorités ou quelle est la principale difficulté ?
Bon, je ne veux pas dire que c'est normal que les classes de première et de dixième puissent ouvrir et après les classes de deuxième, troisième, quatrième. Des écoles professionnelles et les 11e et 12e des classes des lycées. Ce n'est pas pour dire que c'est normal, mais je viens de vous dire tout de suite que pendant deux mois durant, les élèves peuvent faire les réclamations sur les résultats. Donc je dis que pendant ces deux mois, on s'abstient de faire le traitement des résultats parce que ça peut augmenter, les résultats peuvent augmenter avec les réclamations. Comme ça peut diminuer encore, parce qu'un admis peut être recalé. Hein. Malgré qu'il soit proclamé admis, on peut le recaler. Si lors des vérifications, on trouve que ça a été fait. Le second aspect, c'est que il faut que les gens comprennent que il n'y a pas particulièrement de difficultés. Nous n'avons pas de difficultés pour faire les orientations. Nous n'avons qu'un travail à faire. Et le travail à faire, c'est tout un processus. Vous savez, les gens sont pas en train de penser qu'on prend les orientations, on prend les élèves et puis on les répartit entre les écoles. Non, 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 ce n'est pas comme ça. Il y a une répartition qui se fait en fonction de l'ardoise budgétaire qui a été mise à la disposition du ministère de l'Éducation pour les orientations. Il y a une ardoise qui est là. On doit faire en sorte que les élèves soient répartis de telle sorte qu'on ne puisse pas sortir de cette ardoise. Il y a des élèves qu'on oriente à l'enseignement secondaire général, il y a les élèves qu'on oriente au professionnel. Et au niveau du professionnel, il y a les élèves qui sont orientés en administration, en industrie, en agro-pastoral, et les coûts ne sont pas les mêmes. Et donc tout ce calcul est fait pour qu'on ne puisse pas sortir de la rabaisse. Et ça, ça nécessite des opérations qui se feront obligatoirement après les résultats.
Touré, est-ce possible d'orienter des élèves sur la base des données du ministère, mais qu'en réalité, ces lycées n'existent pas sur le terrain?
Bon, je me pose la question et j'ai du mal à y répondre. Parce que quand même, les lycées qui existent, les lycées qui sont agréés, qui existent réellement sur le terrain, géographiquement, doivent être connus du ministère de l'Éducation nationale. Ce n'est pas seulement qu'une question de papier ou d'autorisation d'ouverture. Donc, c'est des lycées que le ministère doit pouvoir situer géographiquement. Tel lycée se trouve à tel endroit. Le ministère, normalement, doit avoir toutes ces informations-là avant d'orienter des élèves dans ces lycées. Parce qu'il est difficile, voire impossible de comprendre que tout un ministère de l'Éducation oriente des élèves dans un lycée fictif qui n'existe pas. Mais je ne sais pas comment on peut expliquer ça. Nous, on tombe des nues, c'est-à-dire que des parents ont cherché des lycées qui n'existent pas. On a tout fait, on n'a pas retrouvé le lycée.
Donc, selon vous, le ministère doit-il réviser sa base de données?
Tout à fait. Tout à fait. C'est pas possible. On ne peut pas... Non, on ne peut pas se payer le luxe de jouer avec ça. Il s'agit quand même de l'argent du contribuable. Il s'agit de l'argent de l'État. Donc, on oriente des élèves dans des lycées. Il faut que ces lycées existent et que ces lycées fonctionnent. C'est aussi simple que ça.
Docteur Moriquet, je voyais que vous avez été étonné lorsque le directeur général de la cellule de planification disait tantôt qu'un candidat admis peut être recalé après des enquêtes.
Oui, bon, peut-être je ne vais pas répondre à ça. Je suis aussi spécialiste des sciences de l'éducation et de la pédagogie. C'est des cas qui arrivent très difficilement. Au contraire, ce sont des candidats non admis qui portent plainte pour vérifier. Bon, le pourcentage est très faible. Ceux qui arrivent à être admis après ces vérifications-là, c'est très faible. Je voudrais dire que le directeur a dit tout de suite que les orientations sont organisées, sont faites à partir de la proposition de l'élève. Comment un élève peut dire qu'un lycée existe ou n'existe pas? Et que c'est par proximité. C'est-à-dire que c'est dans le milieu où l'élève est qu'on voit le lycée le plus proche de sa résidence pour l'orienter. Maintenant, le lycée le plus proche de sa résidence, si ce lycée n'existe pas, l'élève ne pourra pas l'identifier comme base de son orientation. Ça, c'est étonnant. Qu'un élève dise que je vais aller dans ce lycée et qu'il ne connaît même pas ce lycée. Et que ça se trouve dans sa sphère la plus proche. Ça, c'est étonnant. Et donc, je pense que les orientations posent problème parce que il y a plutôt à servir le privé. Et le privé prend de la puissance.
Mais pourtant, il disait tout à l'heure que nous n'avons pas de difficultés à orienter, s'exclame Souleymane Aliou. Il s'agit plutôt d'une ardoise budgétaire, dit-il. Selon vous, le Mali a-t-il le moyen de sa politique quand on sait que les privés ont des arriérés avec l'État?
Oui, mais quand le directeur dit qu'ils n'ont pas de difficultés, alors que les orientations n'ont pas été faites à temps, et voyez le discours. Il dit non, on n'a pas de difficultés. Mais pourtant, on observe que les orientations n'ont pas été faites à temps. Qu'est-ce qui explique ça?
Mais pourtant, il parle d'une ardoise budgétaire.
Mais c'est ça, c'est le budget même qui pose
une
problème.
Une enveloppe, il faudrait dire.
C'est-à-dire que l'enveloppe réservée à la prise en charge des élèves, c'est elle-même sa gestion qui pose problème. C'est sa répartition entre le secteur privé qui est le grand problème, dont le ministre, le directeur ne parle pas. Mais on comprend bien pourquoi. Parce que c'est l'épine dorsale de cette question. Et je pense que si on ne prend garde, nous allons vider les établissements publics
au profit
des établissements privés, dont la qualité de l'éducation n'est pas assurée. Moi, je suis peiné de voir que 68% de nos élèves vont dans le secteur privé et que l'État n'a aucun contrôle
sur
ces privés. Aucune inspection. On ne sait pas qui enseigne français, qui enseigne mathématiques, qui enseigne. Mais et quand et vous voyez quand les résultats sortent, vous comprenez, on n'a pas 30% de taux d'admission au bac. Mais ça n'alerte personne, y compris les parents d'élèves, les associations de parents d'élèves, y compris les enseignants. Mais c'est très grave que nous sommes. Qu'on publie des résultats de moins de 30% et que l'année suivante, les mêmes établissements reçoivent encore d'autres élèves pour ne pas les faire passer au bac, mais recevoir l'argent. Chaque élève est payé. Et dans cette logique, je terminerai, comment l'État va créer les écoles publiques, les lycées publics là, ça va être créé quand? Si on met des milliards à la disposition du secteur privé, quand est-ce que l'État aura les moyens de créer des lycées publics nationaux à son compte. Donc, je pense que, comme mon collègue l'a dit, il faut faire attention avec l'argent du contribuable. Il faut savoir, quand on utilise l'argent du contribuable dans un secteur, il faut s'assurer que ce secteur est efficace, rend des services à l'État. Aux Maliens.
Au regard du problème financier, faut-il donc revoir les critères d'orientation?
Non, ce n'est pas les critères d'orientation. En fait, les élèves qui vont dans le secteur privé et les élèves qui vont dans le secteur public, ils ne sont pas fondamentalement différents. Mais ce qu'il faut revoir, c'est de mettre beaucoup d'élèves dans le secteur public. Vous voyez, quand vous allez dans les lycées, les enseignants ont 4 heures de cours pendant toute l'année. Le temps restant, ils l'utilisent pour aller dans le secteur privé. Et vous voyez, l'État les paye doublement. Il les paye salaire et puis l'argent qu'il donne au secteur privé, le secteur privé leur donne encore les mêmes enseignants. Maintenant, comment un État ne peut pas regarder de cette façon pour réguler la gestion des effectifs et leur répartition entre le secteur privé et le secteur public? Comment, en mettant des milliards dans le secteur privé, l'État aura le moyen de créer un lycée à Bamako? Je sais que le dernier lycée, peut-être, c'est le lycée de Niamakoro. Mais il y a quand même beaucoup d'années, l'État ne crée pas de lycée. Et les effectifs augmentent. Maintenant, on affaiblit les possibilités de l'État pour renforcer le secteur privé sur lequel on n'a aucun contrôle. Et voilà la faillite.
D'accord. Parlant des critères d'orientation, Souleymane Aliou nous explique les critères de ces orientations.
Pour qu'un élève soit orientable au lycée, il faut qu'il ait au maximum, pour un garçon, 16 ans et 3 ans de scolarité au second cycle. Jusqu'à 16 ans, 3 ans de scolarité. Donc, jusqu'à 16 ans, un élève et 3 ans de scolarité au second cycle, un garçon peut être orienté au lycée. Mais dès que le garçon atteint 16 ans, avec 4 ans de scolarité, on le met au professionnel. Pour les filles, c'est 16 ans, même avec 4 ans de scolarité, ou bien 17 ans avec 3 ans de scolarité, ils sont aussi orientables au lycée. Maintenant, au-delà, l'élève peut être orienté au professionnel. Pour le professionnel, il y a deux niveaux. Il y a le professionnel au niveau du CAP et le niveau du BT. Pour le BT, c'est les élèves garçons de 16 ans, 4 ans de scolarité, jusqu'à 18 ans. Jusqu'à 18 ans, et ils sont orientés au BT, c'est-à-dire dans des écoles pour 4 ans. Pour les CAP, c'est les 19 et 20 ans qu'on rentre en CAP, parce que vous voyez, CAP professionnel. Mais un élève qui est orientable au lycée, sur sa demande, peut être orienté au BT, c'est-à-dire au professionnel BT. Je dis bien, un élève orientable au lycée, sur sa demande, peut être orienté au BT. Mais le contraire ne se produit pas. C'est-à-dire que même si un élève qui n'est pas orientable au BT, disons qu'il est orientable au BT, demande à revenir au lycée, ça ne passe pas. Et un élève qui est orienté au BT aussi, s'il demande à aller au CAP, ça aussi on peut le concéder. Mais un élève qui a été orienté au CAP ne peut pas être demandé à être orienté au BT. Ça ne passe pas.
Pourquoi?
C'est les critères qui ont été mis en place. C'est les critères d'âge qui ont été mis en place. C'est la raison pour laquelle on ne peut pas le faire retourner. J'ai dit que c'est des coûts. C'est des coûts. Quelqu'un qui est orientable au CAP, il doit faire 2 ans. Le CAP, c'est 2 ans, maximum 3 ans. Et si vous les ramenez encore au BT, imaginez-vous, ça va le faire passer de 2 ans de possibilité à 4 ans, voire 5 ans. Vous voyez? Donc, c'est ce calcul, c'est sur la base de toutes ces opérations que les orientations sont faites.
Docteur Abdel Touré,
oui.
Quelle réaction avez-vous par rapport à cette déclaration que vous venez d'écouter?
Ça, c'est une de nos préoccupations en tant que parents d'élèves. C'est le Mali même qui a demandé que l'âge de scolarisation soit amené à 7 ans. Vous me suivez?
7 ans?
7 ans. C'est ce qui est officiel. Hein. Ils interdisent aux écoles de recruter les enfants de 5 ans, 6 ans. Il faut 7 ans, normalement. Alors faites le calcul avec moi. 7 plus 9
16.
16. Donc si vous n'avez rien redoublé, vous arrivez en 9e à 16 ans. Gare à vous, si vous échouez la première fois, il faut que vous ayez 3 ans de scolarité, sinon vous n'êtes pas orienté au lycée. C'est ça. En clair, c'est ce que ça veut dire. Donc, nous, on est en train de penser que c'est l'âge qui fait l'intelligence de l'élève. Ce n'est pas forcément l'âge, parce que c'est les critères d'âge, comme l'a dit le directeur, ce sont les critères d'âge qui prévalent pour eux. Donc, si vous entrez à l'école, c'est pourquoi beaucoup de parents choisissent les écoles privées, où ils amènent leurs enfants à 6 ans, et plus ou à 5 ans même. Comme ça, il a des chances d'arriver au DF à 14 ans. Parce qu'en réalité, tous ceux qui ont 14 ans au DF et qui sont orientés sans problème 14-15 ans, ça veut dire qu'ils ont été inscrits avant l'âge de 7 ans.
C'est clair.
Sinon, ce n'est pas possible mathématiquement. Donc, c'est nous-mêmes qui sommes en train d'inciter les parents à inscrire les élèves dans les écoles privées à 5 ans, voire 4 ans. Il faudrait qu'on sache ce qu'on veut. C'est-à-dire il y a un système là. Il ne faut pas qu'on pénalise les pauvres enfants. Tu as 16 ans. Tu as redoublé une seule fois la 9e, c'est fini, tu vas au professionnel. Toi, tu n'as plus le droit d'aller au lycée. Pourquoi ?
D'accord. Il y a eu des forats sur l'éducation pratiquement à chaque année, mais aussi le programme décennal de l'éducation qui ont fait des recommandations pour améliorer le système éducatif. Que fait-on de ces recommandations-là qui sortent de ces forats?
Bon, je ne saurais vous dire ce qu'on fait de ces recommandations. Vous savez, le Mali, c'est regrettable de le dire, nous sommes champions des forats, des ateliers, des trucs, mais ça accouche toujours d'une souris, quoi. C'est-à-dire, en fait, soit il n'y a pas de suivi, soit il n'y a pas de rigueur dans l'application des recommandations, mais voilà. Nous assistons tous tristement, c'est vrai, ça nous fait mal, hein, mais c'est ça la réalité.
Mais est-ce qu'il y a une volonté manifeste des autorités scolaires pour permettre au public d'avoir la qualité?
La question, je vous la retourne parce que nous savons tous ce qui se passe. Hein. Si c'est la qualité que nous voulons, dans les problèmes que nous avons soulignés, je vous prends le cas de l'enseignement supérieur. Pour faire la licence, il faut au moins 5 ou 6 ans pour boucler votre licence. On m'a raconté le cas d'une étudiante qui a obtenu le bac en même temps que ses camarades ici au Mali. Elle a eu la chance d'aller à l'extérieur. Figure-toi qu'elle est revenue de l'extérieur pour donner des cours à l'université à ses promotionnaires.
Avec le système LMD?
Oui, parce qu'elle avait fini là-bas. Pendant que ses promotionnaires étaient encore là à chercher licence 2 ou 3. Parce que licence, normalement, c'est une année scolaire, mais nous avons, nous, des années scolaires de 12 mois. Donc faites le calcul. 12 fois 3, déjà 36 mois au minimum. Pour avoir licence 1, vous mettez 2 ans. Pratiquement.
Oui. Nous-mêmes, nous avons été victimes du système LMD. Docteur, est-ce qu'il y a réellement une volonté politique des autorités scolaires pour permettre au public d'avoir la qualité?
Bon, oui, peut-être la volonté est là parce qu'il y a des changements qui sont en cours. Mais cette volonté affichée ne se concrétise pas dans les actes. C'est ce qui est important. Si vous écoutez bien le directeur, la clé des orientations, c'est l'enveloppe financière. Plutôt que, évidemment, les critères d'âge, les critères de performance, ça, c'est des critères objectifs qui sont proclamés. Mais ce qui sous-tend réellement, c'est combien d'argent on a et on essaye donc de réguler en fonction de l'enveloppe. Non pas pour créer des lycées, mais pour donner ça au privé. C'est ça la difficulté. On dit qu'on n'en a pas assez. On n'a pas assez de ressources. Mais comment vous voulez qu'un pays qui n'a pas assez de ressources eh bien, se met à donner de l'argent au privé pour faire le travail qu'il devrait faire, cet État. C'est ça la question fondamentale. Donc, quand on dit, bon, combien coûte un élève au CAP ? Il coûte moins cher, plus qu'un élève qui va faire le lycée. Parce que le lycée, sous-tend qu'il va continuer à l'enseignement supérieur. Donc, et pendant qu'il continue, il a la charge de l'État. Donc, on voit que, bon, le lycée, probablement, c'est 6 ans, au moins. Maintenant, celui qui fait le BT, il fait 4 ans. Celui qui fait le CAP, il fait 2 ans. Et donc, on tient compte plus de ces calculs financiers pour pouvoir faire les orientations, plutôt que sur les performances, plutôt que sur l'âge, parce que l'âge et la performance vont ensemble. Donc, en définitive, il faut repenser notre façon de faire. Il faut bien repenser. Si l'État n'a pas suffisamment de moyens, l'État met les élèves dans le secteur public où ils payent déjà les enseignants.
Quand vous dites qu'au niveau du lycée, quand vous dites qu'au niveau du lycée, la vie c'est 6 ans, vous faites référence au cas où on redouble. Sinon, normalement, c'est 3 ans.
Non, je pense que le lycée va aboutir à l'université.
Il dit le lycée, on débouche après sur l'université.
Quand quelqu'un est orienté en 10e, il est orienté, il doit être à la charge de l'État normalement 6 ans. C'est-à-dire qu'il va obtenir le bac 3 ans, il va faire une licence 3 ans. Ça fait 6 ans. C'est ce qu'il calcule.
D'accord.
Maintenant, s'il est orienté pour un cycle de BT, il fait 4 ans. Certainement, s'il y a des redoublements, ça peut augmenter.
D'accord.
Maintenant, s'il est orienté au CAP,
il fait deux ans.
Voilà. D'accord. Donc, si quelqu'un dit je ne veux pas faire le BT, ils acceptent qu'il fasse le CAP. Si quelqu'un dit « je ne veux pas faire le lycée », ils acceptent qu'ils fassent le BT. Mais l'inverse n'est pas possible.
D'accord. Ce retard dans les orientations pourrait-il avoir un impact négatif sur le niveau d'apprentissage des élèves ?
Bien entendu. Bon, parce que avant que les élèves vont demander des orientations, comme des lycées n'existent pas, des mouvements, ce mouvement-là va ronger le mois de novembre. Ils sont déjà en retard, tous sont en retard d'un mois. Mais ceux qui viennent d'être orientés auront 2 mois de retard, c'est sûr, pédagogiquement parlant. Maintenant, comment compenser ça? Je crois qu'aucun autre système ne réfléchit pas en termes de compensation d'apprentissage. Et donc, il n'y a aucun dispositif. Ils vont être en main, ils vont aller à la maison. Les apprentissages ne seront pas donc au complet pour leur cycle.
D'accord.
Et ainsi de suite.
Pourtant, pour Souleymane Aliou, ce retard n'aura pas d'impact sur le niveau d'apprentissage des élèves. Selon lui, pour combler le vide de ce retard, de prolongation du nombre d'heures de cours ou de jours seront augmentés. Suivant.
En aval, il y a une prolongation. C'est-à-dire qu'on ajoute sur le nombre d'heures de travail, c'est-à-dire le nombre de jours. Si on doit fermer en juin, s'il y a un retard aussi important que ça, vous allez trouver que la fermeture est repoussée au mois de juillet pour les permettre de travail. Est-ce que vous voyez un peu plus. Et puis c'est un programme qui est exécuté. C'est sur la base de ce programme du temps réel d'apprentissage que les évaluations sont faites. Est-ce que vous voyez? Donc c'est à ce niveau-là que les gens doivent voir les choses, sinon pas dans le temps en tant que tel. On peut ouvrir le 1er octobre, mais à la fin de l'année, on peut se retrouver avec un temps réel d'apprentissage inférieur à la norme, parce que les gens n'ont pas étudié normalement, parce que les gens ont fait
des sorties. Ça, c'est des cas exceptionnels, mais en ce qui concerne les orientations, le ministère devrait quand même prendre des dispositions en amont, faire sortir les résultats bien avant la rentrée scolaire, la date que vous fixez. Est-ce que... lorsque vous fixez les dates de rentrée scolaire, vous prenez en compte aussi les orientations pour qu'elles sortent à temps aussi?
Tout est mis en œuvre pour que les orientations paraissent dans un délai respectable par rapport à l'exécution des programmes. Dans un délai respectable par rapport à l'exécution. Et depuis toujours, rarement les élèves de 10e n'ont bouclé leur programme. Dans l'exécution du programme, les enfants, quand même, font le maximum. Je ne dirais pas que tous les programmes sont épuisés, mais c'est comme ça. Donc, le retard n'a pas d'impact. C'est-à-dire la sortie des orientations n'impacte pas forcément sur le temps d'apprentissage des enfants et par rapport à leur par rapport aux connaissances dont vous êtes en train de parler.
Est-ce que des dispositions sont prises au niveau du ministère de l'Éducation pour permettre à ce que cela ne se produise pas, ces retards récurrents ne se produisent plus?
On est en train d'évoluer vers là. C'est-à-dire qu'on est en train de prendre des dispositions pour que tout soit fait de telle sorte que, même si je ne vous garantis pas que l'année prochaine, les élèves de 10e vont ouvrir en même temps que les élèves de 11e, mais on est en train de travailler dans ce sens. On est en train de travailler dans ce sens. N'oubliez pas que je viens de vous dire qu'il y a 2 mois pour que les élèves fassent les réclamations. Ces 2 mois-là, ça, c'est pour les réclamations. Et j'ai dit que pendant ces 2 mois, les travaux d'orientation ne se tiennent pas. Donc, il faut qu'on finisse avec tout ça pour commencer à avoir toutes les informations requises par rapport au fichier des orientations. Parce que, ouais. Et mieux que ça, le fichier, je vous avais parlé de son traitement. C'est un traitement, ça commence depuis les CAP, au niveau des AE, avant que le comité d'orientation ne puisse siéger au niveau des régions pour pouvoir faire un travail préliminaire qui sera ensuite centralisé au niveau national par la Commission nationale d'orientation. Tout ça se fait. Et quand ils sont là, tout de suite, là, pendant ce temps, quand les gens disent qu'on est lent, on n'a pas travaillé, on a fait ça, des gens ont dormi ici pendant une semaine. Chaque matin, ils quittent ici à 7h pour rentrer chez eux. Et rien que pour ce travail, qui malgré tout, vous voyez, il y a des gens qui disent qu'il y a des écoles qui n'existent pas, il y a des écoles qui ont fait comme ça. Les écoles n'existent pas. Si une école a son nom dans la base, nous, on considère qu'elle existe et elle a eu des élèves, il n'y a pas de problème. Maintenant, si sur le terrain, on s'aperçoit que l'école n'est pas disponible, bon, nous, on sait ce qu'on doit faire. Une école qui n'existe pas, on a fait 2 jours, on la cherche, on ne la voit pas, on redouplace ses élèves, c'est tout. On n'a pas d'autre chose à faire. Donc, voilà le gros du travail. Il ne faut pas que les gens pensent que le travail d'orientation, il s'agit juste de prendre les élèves et de les répartir entre les classes, non, entre les écoles. Non, ce n'est pas comme ça. C'est un peu plus complexe que ça.
Les gens pensent. Est-ce qu'on peut dire que le Mali pourrait relever les défis liés à ces orientations-là?
On le relèvera parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans le système de la digitalisation. Et avec la digitalisation, on ose croire que beaucoup de choses seront facilitées. Beaucoup de choses seront facilitées. Et vous avez vu, tout de suite, en son temps, pour les orientations, qu'est-ce qu'on fait? On passe toute la journée à citer les noms à la radio. Hein? Nous tous, on a entendu nos orientations à partir de la radio. Mais aujourd'hui, on demande à un enfant de faire un clic seulement pour trouver là où il est orienté. Tout ça, ça fait partie des innovations qui sont en train d'être mises en place.
Abel Touré, oui. Souleymane disait tout à l'heure que ce retard n'aura pas un impact sur le niveau d'apprentissage des élèves. Est-ce que vous êtes d'avis avec lui?
Pas du tout. Je vais parler franchement. Un retard a toujours des conséquences. Hein. Ça, c'est un retard, il y a toujours des conséquences, qu'on le veuille ou pas.
Malgré les prolongations qu'il
non,
a affirmées.
Mais les prolongations, ce sont des humains qui exécutent ces heures-là. Ce sont des professeurs qui exécutent ces heures-là. Ça va générer des heures supplémentaires qu'il faut payer. Les élèves, c'est quand même des êtres physiques. À un moment donné, quand on est fatigué, l'esprit ne répond plus, il y a tout ça. Ça, c'est des paramètres qu'il faut tenir en compte. C'est clair, là. Un retard, on le paye toujours.
Il a également soutenu que même si l'année scolaire se déroule normalement, les dixièmes n'arrivent pas à terminer souvent le programme.
Oui, mais les dixièmes, non. Ça fait près d'une décennie que les dixièmes ne terminent jamais les programmes. C'est connu de tous. Les dixièmes ne terminent jamais totalement les programmes. On fait du colmatage. C'est-à-dire, il y a des choses qu'il ne faut pas... Je ne sais pas, moi.
D'accord. Docteur Moriquet a parlé à un moment donné de réformes, où j'ai dit qu'on va parler de réformes dans l'enseignement fondamental et secondaire. Et quelles réformes faut-il aujourd'hui pour prôner un enseignement de masse et de qualité?
Bon, vous savez, le problème du système éducatif malien, il faut que les autorités aient le courage de le prendre à bras le corps. Tout à l'heure, le directeur a parlé des orientations qu'on suivait à la radio, il y a quelques années. Là, on a tous été orientés comme ça. Mais posons-nous la question, est-ce qu'en ce moment-là, ça allait mieux que maintenant ou pas? C'est aussi clair que ça. Faisons une comparaison du temps où nous proclamions les orientations de façon archaïque. C'était à la radio. Mais est-ce que ce n'était pas mieux que maintenant, où on a pourtant tout ce qu'il faut comme technologie et tout et tout? Parce qu'il faut oublier que même cette technologie-là, elle est manipulée par des humains. C'est ça, c'est l'homme qui est au départ. Donc on a beau amener des machines sophistiquées, c'est l'homme qui les manipule.
Le système de l'éducation qui régresse, est-ce que les parents, vous en tant que parents d'association, vous en tant qu'association oui, de oui. parents d'élèves, oui. n'ont-ils pas joué un rôle dans
tout,
ça?
Tout le monde a sa part là-dedans. Parents d'élèves, élèves, autorités scolaires, tout le monde a sa part dans la chute du système scolaire malien. Il faut se le dire.
Et c'est nous vous qui avez également demandé l'annulation du chantement corporel dans l'enseignement.
Qui a demandé
les
ça?
Les parents.
Qui a demandé N'est-ce ça
Les parents.
Quels parents?
L'association des parents d'élèves.
Non.
D'accord.
L'association des parents d'élèves a emboîté le pas aux autorités qui ont dit pas de châtiment corporel. Mais allez
vous
dans les écoles, il y a des parents d'élèves
vous
qui
avez
viennent.
Soutenu.
Non, il y a des parents d'élèves qui viennent jusqu'à présent. Qui viennent. Nous, chaque fois, les parents nous disent bon, c'est vous qui avez. L'État a supprimé ça, c'est pourquoi l'école, ça ne marche plus.
D'accord.
Tous les parents le disent.
Docteur
bon,
Morgan,
il nous reste
3 minutes voilà. 50 secondes. Quelles réformes faut-il pour permettre à l'école d'être sur pied?
Oui, merci beaucoup. Mais enfin, le Fouillé n'a jamais fait la qualité de l'éducation.
Ça.
Nulle part au monde. Donc il ne faut vraiment pas dire qu'il faut frapper les enfants pour qu'on ait un système de qualité.
Mm-hmm.
Nous connaissons les leviers sur lesquels il faut appuyer pour faire de la qualité. Et nous avons des difficultés à agir sur ces leviers. Vous savez, l'année passée, le ministère a programmé tous les examens à la rentrée. Du baccalauréat au CAP, tout le monde était surpris. Et voilà, c'est ça. Il y a un travail de planification à faire. Et il faut donner ça à des professionnels de l'éducation, pour qu'on puisse avancer. Et l'orientation n'est pas un problème majeur si on donnait ça à des professionnels pour pouvoir tabler sur ça. Et c'est ça la difficulté. Donc, j'ai dit, pour rehausser le niveau de nos enseignements, il faut réformer notre système globalement. Le directeur disait banalement que non, chaque année, il ne termine pas le programme, ce n'est pas grave. Ça, c'est grave. Si on fixe ce qui doit être appris, c'est parce qu'on sait que c'est nécessaire. Sinon, on allait réduire. Pourquoi donner un programme qu'on ne peut pas exécuter dans le temps imparti?
Mais est-ce que le système éducatif actuel est-il adapté aux réalités du pays?
Oui, mais ça, c'est une autre question. C'est une question d'adaptation du système au développement socio-économique du pays. Ça pose un autre niveau de problème. Mais lorsqu'on fait un programme, c'est pour être exécuté. Lorsqu'on sait que ce programme ne peut pas être exécuté, on réforme. On ne réforme pas pour la dixième, on réforme pour tout le cycle. Parce que la dixième prépare à la onzième. La onzième prépare à la terminale. D'accord. Si un élément manque, cet élément-là influence les autres.
Une dernière question pour vous. Quelle solution faut-il pour relever les défis liés aux orientations?
Il faut refonder notre système d'orientation. Pas d'orientation d'examen. Notre système d'examen, même l'année prochaine, si ça n'évolue pas, on sera dans la même situation comme les années précédentes.
D'accord.
Donc il faut refonder.
D'accord. Abel Touré,
oui.
Quelles solutions faut-il aujourd'hui pour relever les défis liés aux orientations?
Bon, je vais emboîter le pas à M. Dembélé, non?
Oui.
Voilà, c'est ça. Il faut vraiment restructurer la formule des orientations après le DF. Parce que les 2 mois dont le directeur a parlé, qu'il a fallu attendre pour les réclamations et tout ça, moi je dis non, c'est autant de retard qu'on accuse. S'il y a des réclamations, les réclamations peuvent se faire, je ne sais pas moi. Hein. Les orientations ne doivent pas être tributaires de ces réclamations-là. Si vraiment les examens, les résultats ont été proclamés avec sérieux et tout ça, bon, les orientations ne doivent pas être liées à ça.
D'accord.
2 mois, c'est trop.
D'accord. Merci. Ainsi se referme ce grand dialogue qui réfléchissait sur les orientations des admis au DEF, pourquoi une si longue attente à chaque année. Et nous étions avec Abel Touré, secrétaire administratif de la Fédération nationale des associations des parents d'élèves et étudiants du Mali, Dr Morike Dembélé, pédagogue, enseignant-chercheur à l'université de Bamako. Également, nous avons la participation à part entière du directeur général de la cellule de planification et de statistiques du secteur de l'éducation. Ce débat vous a été présenté par Imrana Akilou Ameiga à la régie vidéo et son, Gagné Kanté et Fili Adamele. Merci d'avoir suivi ce débat. À demain pour un autre débat.